Radio Galilée vous propose à l'instant le Carême 2023. Un entretien dirigé par l'abbé Denis Veilleux avec le père Philippe Capel-Dumont, philosophe, prêtre et président émérite de l'Académie catholique de France, qui nous livre ses réflexions sur le thème « L'heure vient ».
Père Philippe Capel-Dumont, nous sommes toujours avec vous, vous êtes notre guide. Sur quel terrain nous retrouvons-nous dans cette expérience spirituelle du carême?
Oui, alors carême, ça vient de 40, hein. Il faut être très clair, l'étymologie est très claire, 40 jours sans compter les dimanches. C'est pourquoi on commence le mercredi et qu'on termine plus tard un dimanche, ça fait exactement 40 jours moins les dimanches.
Oui, on peut manger un gâteau le dimanche.
Le dimanche n'est pas un jour de carême, ce qu'on ne sait jamais d'ailleurs. Le dimanche comme tel permet justement de sortir de la simple logique du renoncement. Vous avez raison de reprendre ce point, parce que très souvent, le carême est entendu comme simplement une expérience de privation de chocolat. C'est très bien de se priver de chocolat, bon, pourquoi ? Mais on n'est pas à la hauteur, vous en conviendrez, de l'événement. Bon, l'Église a triple plié, l'islam l'a repris, d'ailleurs, la prière, le jeûne et l'aumône. Hein. Alors, si on commande ce trépied, on va directement à l'essentiel. Hein. La prière, c'est-à-dire qu'il s'agit d'entrer en communion comme jamais avec le Dieu. Donc le mot prière est une invitation à même comprendre ce qu'est la prière. Très souvent, la prière est entendue encore aujourd'hui comme simplement une relation de demande. Or, la prière est essentiellement l'entrée en conversation avec Dieu. Tant qu'on n'a pas compris cela, on ne sait pas très bien ce que c'est que prier. La prière se décline de quatre manières. Elle est à la fois, bien sûr, la demande, et il ne faut pas prendre à la légère la demande. Il y a parfois un mépris pour la prière de demande, je ne la conçois pas ainsi, car celui qui est dans la souffrance n'a parfois pas d'autres mots à exprimer, à développer que ceux de la souffrance. Et l'arrogance que l'on trouve quelquefois chez certains en disant « Oh, mais la prière de demande est une prière infantile, archaïque, moi je suis plutôt dans la prière de louange. » Non. La demande, c'est aussi la façon dont 90% de ceux qui prient s'expriment parce que, justement, ils se savent petits. Alors, il y a d'autres manières de prier. Il y a la prière, bien sûr, de la louange, reconnaître les merveilles de Dieu, comme le grand Alei dans les psaumes 150, très bien, et il faut absolument honorer cela. Et la prière de supplication, qui est encore plus dramatique que la demande, et puis la prière d'action de grâce, de merci. Hein. Alors, pour ma part, disons que si on tient ensemble la demande dans sa radicalité, qui est la supplication, et si on tient la louange aussi dans son expression de gratitude, de merci, on a fait le tour de ce qu'est une relation avec quelqu'un que l'on aime. Hein, si on y regarde de près, ceux que l'on aime sont avec nous sous ces quatre modes, en quelque sorte. Hein. Alors, la prière, le jeûne, alors on y reviendra peut-être, c'est toute la fonction du corps qui participe, et ne prenons pas non plus à la légère le jeûne, c'est un exercice nécessaire pour que le corps participe aussi à la trajectoire du carême. Et puis l'aumône, c'est un mot là aussi vieilli, qui paraît à connotation un peu, comment dire, méprisante, je fais l'aumône à. En réalité, il s'agit d'entrer dans une dimension de partage, et donc d'entrer dans tout un pan de l'Évangile qui invite à propos de Lazare, de ceux qui sont au bord, tu n'as pas fait attention, hein, tu n'as pas fait attention à celui qui était là, tu n'as pas fait attention. Et le partage, c'est justement une manière de lutter contre le péché d'omission. Hein, nous avons de bons alibis pour omettre. Hein. Et donc le rappel de l'aumône et du partage, c'est d'inviter justement à prendre conscience que le péché d'omission est vraiment un péché. Et donc il nous donne à prendre conscience de l'existence de l'autre en situation d'indigence. Et donc voilà en quelque sorte les trois piliers. Si vous permettez, je termine simplement en disant ceci. Bien sûr, c'est une expérience spirituelle forte, mais qui ne peut être comprise que dans la mesure où on est sur la trajectoire de ce que je disais tout à l'heure. Le Christ lui-même va aller jusqu'au bout. Alors, nous ne sommes pas obligés de mourir sur une croix. Nous ne sommes pas tenus d'être crucifiés. Nous ne sommes pas tenus d'être martyrs. C'est une situation extrême que peut-être nous n'avons pas à demander. D'ailleurs, le Christ lui-même ne l'a pas demandé. Père, si tu peux, éloigne de moi cette coupe. Il ne l'a pas demandé. Et donc, ce serait du masochisme. Nous n'avons pas à demander. Donc, sur cette trajectoire, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Eh bien, c'est recueillir l'inspiration qui nous vient de ce que Jésus a fait pour faire en sorte que cette inspiration soit féconde sur nos chemins dans les situations extrêmement différentes que nous vivons. Et parfois, des degrés apparemment sont petits, faibles. Néanmoins, la même inspiration de Jésus qui peut jouer sur des terrains finalement assez modestes de la vie quotidienne. Voilà ce que c'est au fond l'expérience spirituelle. J'ajouterai un dernier mot, c'est que très souvent, nous considérons que la foi chrétienne est une disposition tout à fait honorable, mais qu'elle ne peut pas véritablement irradier l'ensemble de l'existence. C'est tellement compliqué, n'est-ce pas, la vie, les choix économiques, les choix politiques, les choix de famille. Précisément, quand on est dans la logique du carême, on recueille une inspiration qui est celle du don en toutes circonstances. Donc, avec intelligence, avec discernement, nous sommes invités à trouver les voies concrètes où cette inspiration peut s'exprimer. Et nous ne sommes pas dans une imitation simple. Je sais bien qu'il existe une littérature de l'imitation de Jésus-Christ, mais attention, l'imitation, ce n'est pas un psittacisme, ce n'est pas une répétition. C'est une inspiration profonde, et nous ne sommes jamais autant près du Christ que lorsque, en son nom, dans ses mémoires, nous inventons une situation. Je rappelle une phrase de Jésus, vous ferez les mêmes œuvres que moi et vous en ferez même de plus grandes. Ce qui veut dire qu'on n'est pas invité au mimétisme, on est invité à trouver sur le terrain, les terrains compliqués différents où nous vivons aujourd'hui au XXIe siècle, à trouver les voies qui nous sont inspirées par cette trajectoire qui va être celle de la passion. Et c'est grâce à l'Esprit-Saint que nous pouvons être inventifs pour donner à cette trajectoire de passion son actualité.
Père Philippe, cela fait appel à notre liberté.
Totalement, liberté créatrice. Liberté créatrice et non pas simplement une ritournelle légaliste qui peut être à la fin destructrice. Alors, nous pourrions parler du rite peut-être aussi en d'autres circonstances, mais le rite est tout sauf un répétitisme passif. Dans le rite, nous répétons bien sûr des gestes, mais pour ne pas répéter. C'est un peu le paradoxe du rite. Nous répétons pour ne pas répéter. Nous refaisons des gestes identiques, mais pour à chaque fois qu'un esprit nouveau jaillisse sur la base de ces rites. Un peu comme quand nous parlons, nous employons des mots que nous avons déjà employés 1000 fois, mais pourtant les phrases que nous faisons sont nouvelles. Et elles disent quelque chose dans des situations nouvelles. Eh bien, le rite lui-même aussi a cette fonction-là. Et donc, en relisant les textes de l'Évangile, de la Passion, tous les textes que l'Église nous réserve dans le carême, nous réitérons cette lecture, mais pour qu'une nouveauté créatrice soit rendue possible.
Vous venez d'entendre le Carême 2023, un entretien dirigé par l'abbé Denis Veilleux avec le père Philippe Capel-Dumont, philosophe et prêtre.